un plaisir de vous retrouver. Bonjour, bienvenue à l'émission Aime l'été, mercredi 20 juillet, ici Chantal Lavoie. Et oui, pour une autre émission remplie de surprises à découvrir, des lieux qui raviront vos yeux, mais aussi vos oreilles. L'été, c'est le moment pour savourer chaque instant et nos régions regorgent d'endroits pour nous faire passer du bon temps. Alors, je vous invite à nous suivre pour la prochaine heure. Nos invités vont certainement vous plaire. Voici Aime l'été, notre fenêtre sur de belles visites et escapades estivales. Et aujourd'hui, place à l'opéra. On s'en va du côté de Québec pour le Festival d'opéra de Québec. On va parler de cinéma et de nouveautés à l'écran. Et notre parcours fait un saut du côté de Coaticook pour visiter le parc des Gorges de Coaticook et un autre sentier lumineux de Moment Factory. Mais dans un instant, on s'arrête dans Charlevoix pour le Festif de Baie-Saint-Paul. Embarquez avec nous. Bienvenue à Aime l'été.
Hello. Yo, I'm in the booth. I'm gonna call you right back. Nah, I just gotta put this one part down. I'm gonna call you back. I'm at the studio, man. Man, quit playing with me, man. No, for real, don't play like that. Are you serious? How you know? Put that on everything. Damn. I'ma call you back.
Every time I was in L.A., I was with my ex-girlfriend. Every time you called, I told you, baby, I'm working.
Oh,
I was out doing my dirt.
Oh,
I'm thinking about you getting hurt.
I
was hand in hand in the Beverly Center like, man, not giving a damn who sees me.
So gone, so wrong.
Just
like I didn't have you sitting at home.
Thinking about me, being the good girl that you are. I bet you probably believe you got a good man. I mean, I never would do the things I'm about to tell you I've done. Brace yourself, it ain't good. But it would be even worse if you heard this from somebody else.
I know you hate me. I know I hurt you. But there's more. Listen. Watch this.
These are my confessions. Just when I thought I said all I can say, my chick on the side says she got one on the way.
These are my confessions.
Man, I'm thrown and I don't know what to do. I guess I gotta keep part two of my
confessions.
If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. Damn, they cried when I got that phone call. I'm so thrown, I don't know what to do but to keep part two of my confessions.
It's gonna be the hardest thing I think I ever had to do.
Got me talking to myself, asking how I'm gonna tell you
about that chick on part one I told y'all I was creeping with.
Say she's 3 months pregnant and she's keeping it.
The first thing that came to mind was you.
Second thing was, how do I know if it's mine and
is it true?
Third thing was me wishing that I never did what I did.
How I ain't ready for no kid and bye-bye to a relationship.
These are my confessions. Just when I thought I said all I could say, my chick on the side,
yeah.
She got one.
These
on the
are
way.
My confessions.
Man, I'm thrown and I don't know what to do
now.
I guess I gotta keep
this part two
of my confessions.
Oh,
if I'm gonna tell it, then I gotta
tell it all.
Damn, they cried when I got that phone call. I'm so
I don't numb. Know,
I don't know what to do but to keep part two of my confessions.
I'm stuck on stupid trying to figure out when, what, and how I'ma let this come out of my mouth.
Said it ain't gonna be easy, but I need to stop thinking, contemplate, and be a man and get it over with.
Over with. I'm riding in my whip, racing to her place, talking to myself, preparing to tell her to her face.
She opened up the door and didn't wanna come near me.
I said, what's happening, baby? Please hear me.
My confessions. Just when I thought I said all I can say, my chick on the side.
So
she got
this by far is the hardest thing I think I've ever had to do. To tell you, the woman I love, that I'm having a baby by a woman that I barely even know. I
hope you can accept the fact that I'm man enough to tell you this. And hopefully you'll give me another chance. This ain't about my career. This ain't about my life. It's about us. Please.
Et c'était Usher qui chantait à l'antenne de M l'été. Eh bien oui, on devait vous présenter plutôt Hubert Lenoir, mais c'est pas très grave, on vous représentera Hubert Lenoir sans aucun doute très prochainement. Et parce qu'Hubert Lenoir justement sera en spectacle un peu partout cet été, et notamment le 22, ce vendredi, au Festif de Baie-Saint-Paul, dont nous allons parler à l'instant en compagnie de Clément Turgeon. C'est Clément Turgeon hein, que l'on reçoit, bien sûr, directeur général et artistique de l'événement. Bonjour!
Bonjour!
Comment allez-vous?
Ça va super bien, vous aussi?
Ben oui, j'espère que ça va bien parce que là, vraiment, vous allez avoir beaucoup de boulot ces prochains jours. Alors voilà.
Tout à fait.
Eh oui. Donc, après une édition 2021 qui s'est avérée quand même un grand succès, qui s'est avérée remarquable avec des sites de spectacles exceptionnels dans cette belle région de Charlevoix. Alors, belle programmation aussi. Ben, vous êtes de retour de nouveau avec une autre édition. Alors, on en est quoi à la... En fait, c'est quelle édition déjà? Je l'avais noté, là,
la
pas
13e.
Loin. C'est la 13e, voilà.
Exact.
merci. Vous m'aidez. Alors, c'est ça, donc, cette année, 90 artistes, des têtes d'affiche, des découvertes qui envahiront quand même les 25 scènes pour donner un total de 120 spectacles, c'est bien ça?
Tout à fait, exactement. Puis, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'en plus des 120, il y en a d'autres qui ne sont pas annoncés, des surprises, donc qui s'ajoutent au lot de spectacles.
Eh bien, vous nous gâtez. Puis, 45 % de ces spectacles sont gratuits, tout de même.
Exactement. Puis, c'est bien important. Tu sais, on veut garder l'événement accessible, que les gens qui ont peut-être pas les budgets peuvent assister au spectacle. Puis, ça ajoute aussi à la spontanéité, justement. Tu sais, les gens qui n'ont pas de billets peuvent décider au fil du temps quel spectacle ils vont voir, puis ils ont pas à se casser la tête avec les accès.
Ah, c'est bien. Et puis, vous nous revenez avec toutes vos belles scènes. On pense à la scène La Pite à sable du parc de la Virevolte, hein, cette scène qui ressemble un peu à un barrage de castors. c'est vraiment festif.
Oui, tout à fait. Puis, dans le fond, nous, ça, ce concept de scéno, tout ça est arrivé vraiment pendant la pandémie. On se disait qu'on ne pouvait pas offrir l'expérience optimale, donc on voulait trouver des manières de compenser. On s'est mis à faire de la scéno, puis là, on est un peu pris avec le concept. Les gens s'attendent à ce qu'on fasse des trucs créatifs, tout ça.
Exact.
On s'est gâtés encore cette année. La scène flottante revient, d'ailleurs. Là, c'est une nos scènes signatures sur la rivière qui passe au centre-ville. Donc, oui, on a des belles scènes cette année.
Donc, on met la barre haute, hein, toujours.
Oui, puis je pense que c'est important. Ça nous garde motivés à faire ce qu'on fait. Puis je pense que ça fait que l'intérêt du festival grossit tout le temps, puis les gens reviennent année après année, puisqu'ils savent qu'on va leur offrir toujours des expériences différentes.
C'est ça. Et puis évidemment, bon, cette région de Charlevoix, de toute façon, hein, c'est un lieu de création. Hein, c'est en Baie-Saint-Paul qui est en constante effervescence, réputée pour non seulement les galeries d'art, mais enfin tout son dynamisme culturel. Alors vraiment, votre rue Saint-Jean-Baptiste, hein, aux allures de carte postale également. Alors vraiment, puis de belles propositions culinaires. Alors c'est vraiment un rendez-vous complet qui nous attend là, du côté de Baie-Saint-Paul. Alors le festif, on va s'en donner à cœur joie effectivement au cours des prochains jours. On parle de programmation là, mais effectivement, il y a la programmation officielle. Puis il y a de retour les spectacles imprévisibles aussi. Ces surprises, comme vous dites.
Exactement. Ça, c'est des spectacles que les gens ne sont pas encore au courant que ces spectacles-là vont exister, puis on les lance sur notre application mobile. Donc, vous recevez comme si vous receviez un texto d'un de vos amis, mais c'est nous qui vous annonce qu'il y a un spectacle surprise dans la cour arrière de telle personne, sur le balcon de telle personne. Puis là, les gens ont 30 minutes pour se rendre, assister au spectacle, puis après ça, c'est terminé. Donc, c'est vraiment des trucs très, très spontanés.
Ah oui, c'est vraiment incroyable. Vous avez, enfin là, on parle du pop-up bière. C'est comme ça qu'on appelle ça.
Ben en fait, on a de plus en plus de surprises. Il y a les spectacles imprévisibles qui sont vraiment avec l'Auto-Québec, c'est les spectacles de
D'accord.
musique. On a des pop-up bouffe, des pop-up bières, donc des pop-up bouffe, entre autres, c'est des chefs de la ville de Québec qui viennent cuisiner des produits locaux ici. Puis les gens, exemple, tu tournes le coin d'une rue, puis là, t'as le chef du Griendel à Québec qui prépare quelque chose gratuit, qui donne ça aux gens. Donc, on essaie aussi de surprendre les gens avec des trucs de bouffe.
Ah ben écoutez, alors c'est vraiment une expérience complète, alors très amusant comme concept. Et puis bon, parlez-nous de votre programmation. Alors ben d'abord, c'est déjà parti depuis hier, hein, je pense. Il y a le cirque Alphonse, hein, sous le chapiteau.
Oui, puis oui, c'est dans le fond notre programmation de cirque est bien importante parce que nous, dans le fond, on s'est un peu inspiré de l'héritage culturel du Cirque du Soleil qui est né à Baie-Saint-Paul. Il y avait la fête foraine à l'époque. C'est un festival qui se passait un peu partout dans la ville. Fait que nous, on veut garder un clin d'œil à l'histoire, finalement. Là, on a vu naître le Cirque du Soleil. Donc,
ça
fait partie de la programmation de cirque. Il y a plein d'art de la rue sur la rue principale les samedis et dimanches aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour toute la famille.
C'est ça. Donc, il y a des gens qui ont déjà mis la table depuis fort longtemps, justement, pour faire de Baie-Saint-Paul un lieu vraiment intéressant et créatif. Alors là, il y a aussi, à partir d'aujourd'hui, là, de ce mercredi, enfin, c'est l'ouverture officielle du parvis, oui, du festif. Hein, c'est comme ça que vous appelez ça.
Oui, exactement. Je suis d'ailleurs assis dans le parvis.
Ah.
Au moment où je vous parle, donc l'espace est presque prêt. Là, on met les derniers détails, puis on accueille les gens à 18h. Ça va nous permettre de nous donner aussi notre air d'aller, là, de commencer tranquillement à ouvrir des sites. Puis demain, à partir de 17h, on commence ça, justement, à la scène Barrage de Castor avec Edith Butler. Puis là, après ça, ben une série de shows va partir pour la fin de semaine au complet.
Oui, c'est ça. Vous parliez du parvis. Ben, c'est vraiment un lieu d'échange, de détente là pour les festivaliers. Alors, vraiment, on peut profiter là d'air de restauration et tout. Alors, c'est un endroit pour se déposer, finalement.
Voilà.
Donc, c'est ça. Puis, alors là, on parle de spectacle. Parlez-nous des têtes d'affiche. Notamment, vous avez parlé d'Edith Butler, mais il y en a plein d'autres.
Oui, il y a Polo et Paz, un duo de français là, de musique électronique. Qui est bien attendu ici, là, qui vont jouer entre autres à Chiaga. On avait jusqu'à ce matin l'Impératrice, un groupe français qui vient d'annuler pour des causes de COVID.
Ah.
Écoutez, ça, c'est la réalité. Exact. On a Brandvent 3000, Les Louanges, Hubert Lenoir, Les Olives Blancs. On va jusqu'à Diane Tell. On a beaucoup de groupes internationaux aussi qui viennent d'un peu partout sur la planète. On en a des tonnes. Québec Redneck, Bluegrass Project, qui sont bien attendus, Gros Méné, Tire le Coyote. Donc, on en a une centaine, sans compter les spectacles de cirque. On a des artistes d'un peu partout aussi. Donc, c'est une programmation vraiment très, très riche.
Très riche, en effet. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous savez, les auditeurs comprendront que Baie-Saint-Paul, c'est pas grand. Et évidemment, avec tous ces visiteurs et ces touristes et tout, alors évidemment, et toute la population locale, ça fait pas mal de monde en ville, comme on dit. Et puis, puis on pense à la rue Saint-Jean-Baptiste, là, qui est quand même une rue piétonnière, piétonne, finalement.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'il y a une programmation aussi. Les arts de la rue seront très représentés sur la rue Saint-Jean-Baptiste.
Oui, tout à fait. Ce qui est le fun, c'est que c'est comme vous dites, là, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment notre activité pour les familles. T'sais, nous, on essaie vraiment d'aller chercher une clientèle assez large parce qu'on veut être, on veut être inclusif. On veut que tout le monde se sente les bienvenus. Fait que le samedi dimanche, on ferme la rue Saint-Jean-Baptiste. En plus des artistes de cirque, il y a une scène, la scène Microbrasserie-Charlevoix. Il y a des spectacles gratuits sur cette scène-là à l'entrée de la rue Fessé. Donc, ça va vraiment bourdonner dans ce secteur-là.
C'est ça.
Donc, on l'ouvre de midi à 18h les samedis dimanches.
D'accord. Alors, mon lien avec la rue Saint-Jean-Baptiste, c'est qu'en fait,
oui,
pour les déplacements, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a pensé à des navettes gratuites aussi pour accueillir tous ces visiteurs. Vous pensez quand même accueillir autour de 45 000 visiteurs, hein, facilement?
Oui, tout à fait. Puis il y a vraiment des travaux aussi sur la route 138. Donc, on a trouvé des alternatives. Là, il y a des travaux qui ont commencé très dernière minute. Mais on demande en même temps, là, on a des systèmes de navettes à l'interne à Baie-Saint-Paul pour les sites éloignés. On a Intercar, on a un partenariat qui amène des gens de Québec. Puis on invite les gens justement à prendre leur à être patients, à télécharger notre playlist Spotify, puis de partir un petit peu d'avance s'ils veulent vraiment arriver dans les temps à Baie-Saint-Paul.
C'est ça. Donc, prenez de l'avance. De toute façon, il y a plein de choses à faire. Ça vaut la peine d'arriver vraiment très, très, très à l'avance. Alors, et puis, c'est ça. Puis donc, on vous invite à faire du covoiturage, évidemment, pour vos déplacements, toujours plus facile. Et puis, comme on a dit, les navettes gratuites. Alors, c'est à suivre.
Exactement.
Maintenant, évidemment, dans cette belle région de Charlevoix, Baie-Saint-Paul, tout ça, on est très axé vers le développement durable, étant donné que, oui, on veut préserver ce lieu intact le plus possible. Alors, c'est un événement vraiment éco-responsable aussi.
Oui, puis ça, c'est vraiment une priorité depuis les premières éditions. On avait commencé, entre autres, en éliminant le plus de déchets possible, donc les verres en plastique. Puis là, on a développé beaucoup d'initiatives. On a arrêté la marchandise textile. Maintenant, on a une presse à chandails avec des artistes locaux qui font des sérigraphies sur vos chandails usagés. Donc, on produit pas de nouvelles marchandises. On récupère les mégots de cigarettes. Les loges sont 100% en vrac avec des épiceries en vrac. Donc, on n'a pas d'emballage en plastique jetable. On a des gestions de tri des déchets sur place. Donc, on a une très, très grosse politique de développement durable. Puis ça, ben pour nous, ça fait partie de l'ADN même de l'événement.
Effectivement. Eh bien, pour faire une belle promenade entre fleuve et centre-ville, combiner notre intérêt pour l'art au plaisir de profiter du grand air, de manger des produits de chez nous et d'aller s'amuser au festif de Baie-Saint-Paul, eh bien, on vous convie dans cette belle région jusqu'au 24 juillet. Alors, c'est maintenant que ça se passe. Alors, merci bien d'être venu nous en parler.
Ça fait plaisir. Merci à vous.
Et bonne fête. Ben, enfin, bonne festivité. Bon. Au revoir.
Merci. Merci.
Voilà, c'était Hubert Lenoir, de son vrai nom Hubert Chiasson, auteur, compositeur, interprète originaire de Québec. Hein. Il connaît le succès en 2018 à la suite de la parution de Darlene, son premier album solo. Cette chanson Fille de personne, il l'avait interprétée lors de son passage à la finale de l'émission La Voix en 2018. Alors, on connaît la suite. Hubert Lenoir, je le rappelle, hein, qui sera en spectacle un peu partout cet été, et notamment le 22, ce vendredi, au festif de Baie-Saint-Paul. Voilà. Eh bien, chronique cinéma avec Camille Cusset, la dernière fois. Bonjour, Camille.
Bonjour, Chantal.
Et, oui, donc, nous nous sommes intéressés la dernière fois à un film de Marcel Pagnol dans la catégorie des films à revoir en lien avec le thème des vacances. C'était le film, c'est-à-dire Le château de ma mère.
Exactement.
Et voilà, alors, on était transportés en Provence avec les souvenirs de vacances d'été du jeune Marcel Pagnol. Cette fois, c'est tout un autre univers, l'univers,
d'un tueur à gages, exactement.
Tueur à gages, c'est quelque chose. Alors, le film Confession, une nouveauté à l'écran présentement au Québec.
Oui, qui sort aujourd'hui, donc en salle de cinéma, dans toutes les salles de cinéma du Québec. Il sera visible partout. Il était attendu, très attendu, ce film, mais la pandémie l'a retardé. On devait l'attendre pour 2021, mais bon, ça en a été autrement. Le réalisateur et acteur Luc Picard signe ce film et joue dedans aussi. D'ailleurs, il incarne Gérald Galland, qui est ce tueur à gages sanguinaire qui a perpétré 28 meurtres au Québec, dont 12 tentatives de meurtre. Et c'est son histoire donc, qui est retracée à l'écran, basée sur le livre Galland, Confession d'un tueur à gages, qui a été écrit par les deux journalistes, Félix Seguin et Éric Thibault. Publié aux éditions du journal, et en 2015. Alors, Gérald Galland...
Oui, c'était tout un personnage. D'ailleurs, il n'y avait pas le physique de l'emploi, nécessairement. Hein?
Exactement, pas du tout. Il était bègue. Donc, il avait vraiment ce problème de langage.
Il avait l'air de rien.
Exactement. Très compatissant. On le voit plein de compassion envers les autres dans le film. Et qui avait une bonne tête
c'est
aussi.
Ça. Alors double vie, hein, comme bien d'autres, mais enfin là, lui, dans son cas, c'était toute une vie.
Oui, exactement. Et c'est ce que Luc Picard a vraiment essayé de présenter, et ça se ressort très bien. Vraiment, on le voit sous ces deux aspects, l'aspect du tueur et l'aspect de l'homme presque, comme vous dites, donc qui ne paye pas de mine. Dans la distribution, on a Luc Picard, donc qui joue Gérald Galland. David Lahaye, dans le rôle de Donald Lemaire, qui est le coéquipier, en fait, l'acolyte de Galland. Et il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant dans ce rôle-là. Très flamboyant. Les articles l'ont décrit comme étant flamboyant. Mais c'est vrai, c'était un très... Il incarne beaucoup bien ce personnage-là et il donne envie, en plus, il donne encore plus d'âme à ce film-là. Beaucoup de couleurs.
Le personnage de David Lahaye.
De David Lahaye, exactement, qui est Donald Lemaire.
Donc, c'était un petit peu les contraires s'attirent, comme on dit. Lui était plus flamboyant, l'autre était plus réservé.
Exactement.
Même très réservé.
C'est en plein ça. Et puis, ça rentre dans l'idée du contraste. Moi, dans ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'on a vraiment un contraste. On a un homme qui fait ce métier de tueur à gages pour mettre un petit peu de contexte, c'était pendant la guerre des motards, entre autres, donc qui était entre 1994 et 2002. Les Rock Machines affrontaient les Hells et Gérald Galland travaillait pour les Rock Machines. Il avait des contrats et il assassinait les Hells.
C'est toute une époque, c'est toute une histoire en tout cas, c'est quelque chose.
C'est ce que j'ai pu voir, hein, pour ne rien vous cacher, c'est surtout le côté historique qui est très intéressant dans ce film. Aussi les prises de vue, on est vraiment dans des scènes très intimes avec des plans très rapprochés, que ce soit sur Galland ou sur les autres personnages. Mm-hmm. La musique signée par Daniel Bélanger, vraiment un bijou. Moi, j'ai trouvé ça très beau parce que ça accompagne toutes les scènes. On a des scènes très violentes, avec du sang, évidemment, des coups de feu, mais toujours très bien balancées avec la musique et les narrations, comme on dit.
Ça donne, la musique, j'imagine, un certain détachement. Hein?
Exactement, exactement. Dans plusieurs critiques, on dit que la musique permet de souffler dans ce film-là.
Ça permet de respirer exactement. Un petit peu parce que... C'est assez violent, en effet. Ouais.
Oui, mais c'est vraiment bien fait. Puis, donc, les scènes très rapprochées, la musique et les personnages aussi. Sandrine Bisson, donc, qui joue je ne vais pas vendre la punch, mais elle a un rôle important dans le film. Et elle aussi, son personnage est très, très bien incarné.
Ah oui, c'est une actrice fabuleuse. Hein.
C'est ce que je découvre aussi. Et oui, vraiment. Donc un film suspense policier, pas vraiment action, 1h49 de bonheur et de découverte de l'histoire du Québec et de ce personnage Gérald Galland. Alors petite anecdote, il est incarcéré actuellement, Gérald Galland, donc à vie.
Il vit toujours,
tout à fait. Et il ne touchera pas de rétribution de ce film-là. Lorsque la police l'a arrêté,
l'a épinglé, il y a un contrat. Comme on dit.
Exactement. Il a donc signé un contrat et donc il n'a pas droit d'accorder des entrevues aux médias ni de recevoir une rétribution si son histoire fait l'objet d'un film, comme
d'accord,
c'est le cas
ouais.
ici. Ou d'une série télévisée. Donc, il ne touchera aucune rétribution pour cette biographie sur lui.
D'accord. Parce qu'en fait, c'est ça son contrat. Enfin, on disait, il recevra $50 par mois dépensés à la cantine de la prison jusqu'à sa libération.
Exactement.
Pour un total de $15,000 s'il vit jusque-là.
S'il vit jusque-là, parce que donc la condition, il peut recevoir une conditionnelle à partir de 25 ans. Donc, il aura à peu près 83 ans. Donc, bon, il faut. On verra.
C'est ça, on verra bien. Enfin, c'est sûr. Il y en a un qui n'a pas eu la chance de vieillir trop longtemps en prison. On pense à Mom Boucher récemment.
Ben, exactement.
Oui. Alors, c'est ça, c'est à suivre. Mais enfin, je ne sais pas s'il a vu le film. L'histoire ne le dit pas pour l'instant. Mais en tout cas, j'imagine que je ne sais pas s'il va le regarder, enfin, son histoire, quand même. Et puis, bon, c'est quand même... C'est toujours un peu spécial, hein, quand on fait un film comme ça sur un criminel.
Oui. D'ailleurs, donc, le nom en anglais, c'est Confession of a Hitman. On a un film du même nom qui est sorti en 94, et ça, c'est un film américain, donc beaucoup plus action, on n'est pas sur une biographie. Et je crois que la différence, c'est ça. Dans ce film-là, on est sur l'histoire d'un homme, normal presque, mais qui fait des contrats de tueur à gages. Mm. Et dans des films plus action, qui sont tout aussi sanglants, là, on est dans... comment je pourrais dire ça ? C'est plus agressif, en fait. Là, c'est vrai que c'est particulier, mais honnêtement, il est attachant. Il est attachant, ce film.
C'est ça, parce qu'en fait, on s'applique aussi à montrer l'autre côté de la médaille.
Enfin,
l'autre personnalité de cet homme. On cherche à comprendre.
Tout à fait.
C'est toujours ça, au fond. On cherche à comprendre. Quand on cerne comme ça un personnage qui a été... qui un personnage réel, quoi.
Oui, exactement. Puis ça, ce contraste-là, les deux versants de la médaille, c'est incarné par David Lahaye, donc son acolyte, et lui.
D'accord. Ah, ben en tout cas, c'est fort intéressant, Camille. C'est un film qui prend l'affiche, on l'a dit,
aujourd'hui dans
même.
Les salles de cinéma, oui.
Et puis, il y a un autre film aussi dont on voulait parler, mais on en reparlera. Et puis, c'est celui de Cédric Caplice, Encore, sur la danse, notamment.
Exactement.
Alors, on en reparlera si on a le temps, quoi.
Tout à fait.
Au revoir, Camille.
Au revoir,
merci, Chantal. À la semaine prochaine.
Merci.
Vous écoutez Aime l'été.
Profonds élans, des tendres violons.
Voilà, c'était bien beau. L'heure exquise, un extrait de La Veuve joyeuse de Franz Lehár. C'était chanté par la soprano Julie Fuchs et le ténor américain Charles Castronovo. Le Festival d'opéra de Québec qui nous revient, une 11e édition qui va faire le bonheur de tous les passionnés d'opéra et d'opérette. J'accueille à l'instant Jean-François Lapointe, directeur général du festival. Bonjour.
Bonjour.
Eh ben oui, alors ben je disais, en fait, je disais une 11e édition, c'est la 12e.
Ben, c'est une 12e année, mais il y a eu une année COVID.
Ah, c'est ça, oui. Donc,
on compte en COVID maintenant.
Oui, effectivement. Ah là 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 là. Alors donc, oui, ce beau festival qui nous revient, d'ailleurs, on écoutait un extrait de La Veuve joyeuse qui sera d'ailleurs présenté. On aura une adaptation de La Veuve joyeuse qui sera parmi, qui compte parmi la programmation de cette année.
Tout à fait.
Il y a plein de belles choses. Enfin, c'est vraiment, en fait, il y a toute une historique là aussi dont j'aimerais que l'on parle, parce que vraiment, on peut dire que Québec, la ville de Québec, et ici au Québec, il y a quand même une tradition d'opéra intéressante, effectivement. Alors, et puis d'ailleurs, vous étiez vous-même aux premières loges dans bien des événements.
Ben oui, ben c'est ça, c'est certain. Bon, moi, je suis déjà... J'ai été pendant 30 ans, plus de 30 ans, chanteur d'opéra en chantant un peu partout dans le monde.
On
d'ailleurs,
vous connaît bien.
Veuve joyeuse, quand vous mettez ça, moi, c'est une œuvre que j'ai beaucoup chantée, Veuve joyeuse. Donc, ça vient toujours me chercher. Puis je suis content qu'on ait pu mettre ça cette année aussi dans le festival, parce que ça apporte aussi une touche de légèreté, d'humour. On a des super beaux jeunes artistes dynamiques qui vont faire partie de cette production-là. Donc, c'est une association avec Jeunesse Musicale Canada.
C'est
donc,
ça.
Le festival. Mm-hmm. C'est déjà plusieurs années là, que ça existe, ce partenariat-là. Puis moi, dans le festival, c'est quelque chose auquel je tiens aussi, c'est-à-dire d'avoir des unions avec d'autres organismes. Évidemment, on a nos grosses productions. Évidemment, là, notre gros spectacle, ça va être notre Faust de Gounod.
C'est ça.
Puis franchement, là, ça va être un événement là, vraiment particulier là, dans le cadre du festival, avec une distribution internationale, un décor, mais à couper le souffle, comme on aura peu vu à Québec, un décor immense avec des projections, beaucoup de techniques, beaucoup de technologies dans cette production-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, on a notre création de Yourcenar, une île de passion qu'on fait au Palais Montcalm.
Ça va être quelque chose.
Avec les violons du roi, notamment des artistes d'ici, un texte écrit par Hélène
Dorion.
Dorion, voilà.
Voilà.
Musique, aidez-moi. Quand j'arrive pour nommer des noms, je bloque tout le temps.
Non, mais ça va.
Ce qui est tellement énervant, d'ailleurs, j'aimerais dire les noms avec grande facilité, mais pourtant, c'est des gens que je connais tellement bien et que j'admire. Donc, on va faire donc cette production-là, cette création-là. C'est pas tous les jours qu'on peut créer un opéra et savoir qu'on est dans un événement particulier, quoi.
Ouais. C'est la musique de Dominique Champagne.
Dominique Champagne, exactement.
C'est ça. D'ailleurs, on va le recevoir, vous savez. On aura le plaisir de le recevoir.
C'est un artiste incroyable, Dominique.
Tout à fait. Quel compositeur.
Éric Champagne. Et puis, il
est... Ah, j'ai dit Dominique Champagne, non, c'est Éric Champagne. Ben non, c'est ça. Dominique, c'est l'autre. Puis, c'est le metteur en scène.
Effectivement. Mais ça, c'est un artiste qui compose, qui a été créé à Québec plusieurs fois. D'ailleurs, au Palais Montcalm, c'est pas la première fois qu'il y a une œuvre de lui. Donc, c'est quand même quelque chose là, dans le cadre d'un festival de se dire, là, on fait à la fois une grande œuvre comme Faust, ensuite une création avec notre Yourcenar, une île de passion. On fait une Veuve joyeuse. Puis on a nos contes d'Anderson aussi qui vont avoir lieu à l'Université Laval, à la salle Gagnon. Donc, on a quatre œuvres comme ça qui sont faites à travers le festival, plus évidemment notre circuit opéra, ce qui est une nouvelle chose à travers la ville de Québec.
Avec la brigade, c'est ça?
La brigade lyrique.
Eh oui.
Et la brigade lyrique, les brigades lyriques, parce que j'ai deux brigades lyriques cette année, et puis un circuit lyrique. Puis les gens peuvent aller sur le site Festival Opéra Québec pour voir où avoir les billets, pour avoir l'horaire. Donc, c'est un beau festival, c'est un grand cru, je pense, cette année.
C'est ça, parce qu'en fait, il va y avoir 5 stations au cœur du centre-ville. Alors, on va pouvoir revisiter les grands moments marquants de l'opéra. Ça va être très intéressant.
La ville de Québec a toute une histoire d'opéra.
Ben, c'est ce que je disais.
Au fil des, disons, sur deux siècles, il y a eu différentes salles ont servi à produire de l'opéra. Il y en a une, bon, notre première station, la salle n'existe plus, mais on fait une station pour justement parler de cette salle-là qui était sur le chemin Saint-Louis et sur la rue Saint-Louis. Et puis, évidemment, les salles qui maintenant existent toujours, mais qui sont plus nécessairement des salles dédiées à l'opéra, qui sont le Capitole. Le Capitole, c'était une très grande salle d'opéra à sa création. Et puis, le Palais Montcalm,
exact.
La première fois, par exemple, qu'un opéra qui est aussi célèbre que l'Acmé de Delibes, c'est un opéra, d'ailleurs, le thème de notre publicité, c'est justement la fameuse ère des fleurs dans l'Acmé. Mm-hmm. Ça, c'est la première fois que l'opéra a été créé ici, ben, c'était justement dans cette salle-là. Donc, c'est une salle qui a vraiment porté de l'opéra, puis elle porte le nom aussi, la salle porte le nom de la salle Raoul Jobin, qui était très, très grand chanteur d'opéra.
Effectivement, ben oui, le nom le dit. Mais donc, écoutez, de toute façon, on peut dire que la première, en fait, production, ben, vous avez toujours été associé à l'Opéra de Québec aussi, par le fait même. C'est-à-dire que, évidemment, bon, il y a eu toutes des étapes. Là, on veut pas remonter si loin, mais je pense à 1983, là, qui va marquer une étape décisive dans l'histoire de l'art lyrique à Québec.
Oui.
Il y a eu tout un effort. Il y a eu la fondation de l'Opéra de Québec. Et puis après ça, ben, tout va s'enchaîner, bien sûr. Et puis, il y a une première production qui va être faite en 85. D'ailleurs, ça va être Madame Butterfly de Puccini. Alors vraiment, la tradition, elle est là, elle est toute tracée.
Mais tout à fait, c'est au fil des années, l'Opéra de Québec, ça commence à être une histoire qui est quand même assez longue. Il y avait eu d'autres compagnies avant qui, pour toutes sortes de choses, de raisons, ont fermé. Mais l'Opéra de Québec, c'est quand même une compagnie qui dure, donc depuis effectivement 1983. Depuis 1983, l'Opéra de Québec joue toujours au Grand Théâtre de Québec.
C'est ça.
Avec évidemment des événements comme ce qu'on fait qui jouent aussi dans d'autres salles, mais nos principales productions se jouent toujours au Grand Théâtre. Et puis, dans notre circuit lyrique, ben, on va aussi parler du Grand Théâtre, on va avoir une station au Grand Théâtre, et on a une station aussi à notre maison de l'Opéra, qui sont nos bureaux, en fait, qui sont sur l'avenue Taché. Donc, oui, l'histoire de l'Opéra de Québec est riche. Il y a eu des très grandes productions. Et maintenant, depuis plusieurs années, on a aussi des échanges beaucoup internationaux, c'est-à-dire des coproductions, et on fait venir des artistes internationaux. Je dois dire qu'avec notre Faust, justement, on est très fiers, en fait, d'avoir des artistes qui proviennent de plusieurs pays européens, de Belgique, de France. Donc, des grands créateurs, des grands artistes qui jouent dans les plus grandes scènes du monde, qui ont tous joué, par exemple, à Bastille, à l'Opéra de Paris, dans des théâtres aussi prestigieux que Monaco, enfin, des théâtres partout en Europe. Et donc, on a la chance d'avoir ces artistes-là ici à Québec pendant le festival. Il faut vraiment se précipiter, acheter des billets, venir nous voir... Venir vivre l'opéra, parce que c'est une expérience.
C'est une expérience, effectivement, oui.
Je vous assure qu'une production, justement, comme Faust, c'est à couper le souffle. J'assistais à des répétitions hier soir, et évidemment, c'est pas fini, on n'a pas encore tous les décors et tous les costumes, mais les projections, le décor, c'est-à-dire, est déjà placé, et c'est très impressionnant, l'immensité de ce décor-là, qui a été entièrement fabriqué ici à Québec, dans nos ateliers. Donc ça aussi, c'est une fierté pour la ville, de pouvoir à la fois avoir un festival, mais avoir quelque chose qui fait travailler des artisans ici, des artistes et des artisans d'ici.
Ouais. Dis donc, juste une petite anecdote, parce que, bon, je réalisais une chose, ça concerne l'Opéra de Québec, mais en fait, on dit que le soir de la première de l'Opéra de Québec, là, on a présenté la production avec les surtitres en français, mais semble-t-il que c'était tout à fait nouveau à l'époque?
C'était la première fois en Amérique du Nord.
C'est incroyable.
Maintenant, on va dans des salles partout dans le monde, il y a des surtitres.
Oui, c'est comme normal.
Et c'est normal, on est habitué à ça, mais c'était la première fois que ça se faisait en Amérique du Nord. Il y avait un théâtre qui l'avait expérimenté en Europe, puis là, j'avoue, je ne me rappelle plus lequel. Mais ça, donc, on était les deuxièmes au monde et les premiers en Amérique du Nord. C'était très avant-gardiste. À l'époque, c'était des comment est-ce qu'on appelle ça? Il y avait un carrousel c'est pas des photos, là. C'est des, comment est-ce qu'on dit ça? C'est
comme des, pas des diapositives.
Des diapositives.
Voilà.
Des diapositives qui étaient projetées.
Oh là là.
Le temps que ça pouvait prendre pour photographier et mettre sur diapositive chacune des images qui permettait de voir la traduction. Donc, c'était un travail absolument colossal. Et imaginez, la personne, celle qui a fait ça pour la première fois, elle était très jeune à l'époque, c'est toujours elle qui fait nos surtitres. Donc, c'est
quelle belle histoire.
Mais c'est une histoire incroyable. À l'époque, écoutez, l'Opéra de Québec avait reçu des lettres de félicitations de personnes aussi illustres que Luciano Pavarotti.
Mais oui.
Qui avait écrit à l'Opéra pour féliciter.
Ben, féliciter, oui, effectivement. Il y a eu un déluge de félicitations, d'ailleurs, ben quand l'Opéra de Québec est né.
Tout à fait. Donc, c'était une grande nouveauté. Et puis, c'est une fierté pour la ville. Puis c'est quelque chose, quand même, de penser qu'on a une compagnie d'opéra professionnelle qui existe depuis quand même 40 ans.
C'est fabuleux.
Ouais. Ben oui.
Ben, en tout cas, la 12e édition de ce festival d'opéra, enfin, on dit 11e, là, c'est...
Oui, la 12e année.
Mais la 12e année, mais la 11e édition, vraiment. Alors, ça se poursuit jusqu'au 4 août. En fait, c'est du 24 juillet au 4 août.
Ouais.
Alors, vraiment, allez voir la programmation. Donc, on peut dire que l'opéra se porte bien. Vous savez, il y avait un article de Marc Boucher qui pilote le Festival Classica qui disait que l'opéra, en fait, ne se portait pas si bien que ça, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce côté-là?
Ben, écoutez, je dirais qu'on peut avoir toutes sortes d'opinions, mais une chose est certaine, c'est qu'au niveau artistique, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on a des grandes productions qui se font ici. Puis ça dépend aussi toujours des gens qui sont, j'oserais dire, c'est un peu les gens qui sont à la tête aussi de ces organismes-là. L'Opéra de Québec a eu la chance, dans son histoire, d'avoir des gens très dynamiques qui ont osé faire des choses au fil du temps.
C'est ça.
Ça, c'est précieux, parce que on a eu des grandes collaborations dans le passé avec le Metropolitan, avec plein de théâtres, et on continue de faire ça. On est tourné vers l'avenir. Maintenant, on se sert aujourd'hui, par exemple, de la technologie. On a des projections. On utilise vraiment les artistes aussi pour leur capacité, autant leur capacité scénique que leur capacité vocale.
Ouais.
Et ça, non, je suis obligé de... Moi, je trouve que, notamment, l'Opéra de Québec est vraiment une compagnie qui est très dynamique. Pendant la pandémie, où, par exemple... Toutes les maisons d'opéra ont arrêté à travers le Canada. Il n'y a eu que l'Opéra de Québec qui a produit. On a fait 4 productions numériques pendant la pandémie, ce qui est énorme. Ça représentait vraiment un effort colossal.
C'est remarquable.
C'est remarquable.
Ouais.
Et vraiment, on a été la seule compagnie au Canada à faire ça. Donc, on en est très fiers. Puis, on a eu des spectateurs et un public, en fait, qui a été reconnaissant de ça. Et je pense que ça aussi, c'est un souci de...
Ouais.
On peut être très fiers de ça.
C'est ça. Mais je pense que ce qu'il voulait dire aussi, c'est que les artistes... Bon, c'est sûr que comme on va à l'Opéra de Montréal, bien sûr, la salle Wilfrid Pelletier, elle est remplie. Mais c'est vrai que c'est quelques soirs. Ce n'est pas nécessairement à tous les soirs.
Monter un opéra, c'est des budgets colossaux.
Et oui, effectivement.
Le financement n'est pas simple.
C'est ça.
C'est comme n'importe quel grand spectacle. Arriver à financer tout ça, c'est toujours difficile. Ça demande à la fois des efforts des paliers de gouvernement, du financement privé, et puis évidemment de la vente des billets. C'est un équilibre entre tout ça.
Et puis les artistes c'est parce que les artistes sont tellement nombreux et tellement talentueux que, évidemment, peu peuvent vraiment se produire avec autant de fréquence sur scène. Alors souvent, il y en a quelques-uns qui réussissent à aller à l'étranger, mais je pense que c'est à ce niveau-là. On a tellement de talent qu'on aimerait les retrouver plus souvent.
Mais c'est vrai, vous avez raison. Et vous avez raison de souligner que quand on fait un opéra, il y a une centaine de personnes. Vous savez, il y a 60... Par exemple, si vous venez voir Fosse, il y a 70 musiciens, même un peu plus, 70 musiciens, disons, dans la Fosse. On a 32 choristes. Il y a une dizaine de solistes. Donc déjà là, on atteint 100 personnes facile.
C'est ça.
Et puis si on compte, après ça, toute l'équipe technique, les gens autour qui ont fabriqué les décors, les costumes, on rejoint pratiquement 200 personnes. Donc, c'est une vraie entreprise.
Exact.
Faire un opéra.
Jean-François Lapointe, c'est tout le temps qu'on a. Alors, je vous remercie infiniment et bon Festival d'opéra de Québec.
Ben, je vous remercie puis on vous y attend.
Merci. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Quand... Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of shadows. Follow, sweet children, I'll show thee the way through all the pain and the sorrows. Weep not, poor children, for life is this way, murdering beauty in passion. Children, it must be this way, too weary of life and deceptions. Rest now, my children, for soon we'll away into the calm and the
Voilà, c'était Come Little Children, d'après la musique du film Hocus Pocus, ou les trois sorcières, voilà, ou encore Abracadabra au Québec, ce film des studios Disney sorti en 1993, une pièce revisitée par le duo The Hound and the Fox. En fait, ces deux artistes qui sont aussi un couple dans la vie, qui aiment simplement faire de la musique ensemble et qui développent leur propre projet. Ils devaient sortir en 2021 un EP de leur propre composition. Alors voilà, eh bien, on s'en allait du côté de Quatty Cook, dans un endroit enchanteur, oui, au parc de la gorge de Coaticook, pour une merveilleuse randonnée pédestre, mais aussi pour un parcours lumineux hors de l'ordinaire. Et je devais accueillir la directrice générale du parc de la gorge de Coaticook pour nous en parler, mais elle n'est pas encore au téléphone. On va tâcher de la joindre. Vous savez, le parc de la gorge de Coaticook a été désigné merveille touristique des cantons de l'Est selon un sondage Léger Marketing. Le but était d'identifier 7 merveilles parmi les plus appréciés des Québécois dans chacune des régions touristiques de la province. Alors, le parc de la gorge de Coaticook, c'est classé bon premier, voilà. Et puis, on a rejoint finalement Caroline Sage, directrice générale du parc. Bonjour!
Bonjour!
Bien, effectivement, on disait que le parc de la gorge de Coaticook s'était classé bon premier dans un sondage, c'est bien?
Eh oui, on est chanceux! C'est un sondage qui était fait par les Québécois aussi, donc c'est on est doublement content.
Ben oui, parce que ben oui, c'est nous qui adorons aller dans cette belle région. Faut dire qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. On est près de la frontière américaine et puis on a toutes sortes de produits aussi du terroir dans le secteur. Bref, on va parler de ce centre de plein air exceptionnel qui offre des activités estivales, mais aussi en hiver. Hein. On peut y aller à longueur d'année.
Oui, exactement. On est un centre de plein air 4 saisons depuis déjà quelques années. Donc, on essaie quand même de travailler. On n'a pas énormément d'activités encore l'hiver. Il faut être très, très créatif maintenant hein, pour développer un produit d'hiver parce qu'on a des hivers avec presque pas de neige.
C'est ça.
Donc, on est là, à s'améliorer ouais. À ce point de vue-là.
Et puis, ce qui est caractéristique, c'est ce pont suspendu aussi.
Oui, pied, le plus long pont suspendu. Maintenant, on est en Amérique du Nord. À l'époque, on était vraiment au niveau... on avait eu un record mondial,
hey.
Mais on a été surpassé en
2010.
Oui, exactement.
D'accord.
Mais quand même, on est quand même le plus long en Amérique.
C'est pas rien. Oui, effectivement. Alors, j'y suis déjà allée. Alors, c'est quand même assez impressionnant, oui, d'être comme ça, de marcher sur ce pont suspendu. Alors, bref, vous avez... Bon, évidemment, il y a un nouveau parcours lumineux maintenant en forêt. Alors ça rend la chose encore plus attrayante. C'est un apport important pour vous.
Exactement. On a été le tout premier, hein, le parcours forestier lumineux. On a été le tout premier à l'époque. C'est notre 9e saison. Puis, on avait, dans le fond, on avait une idée folle. On en a partagé un peu avec Moment Factory. Ensemble, on a fait Foresta Lumina, qui est quand même assez exceptionnelle, qui est la mise en lumière de notre forêt, mais la nuit. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu nulle part auparavant. Puis, c'est un super beau spectacle. Vraiment.
Ah oui. Hein. Et vraiment, ouais. C'est ça. Alors, c'est vraiment très impressionnant parce que le parc, c'est magnifique aussi. Les arbres, c'est vraiment une forêt très agréable dans laquelle on peut circuler. Là, c'est vraiment de toute beauté.
Oui, on dirait que c'est un, au fil du temps, on est un organisme à but non lucratif, donc ça a été fait par plusieurs personnes, plusieurs générations. Tu sais, on existe, dans le fond, les premiers visiteurs ont été accueillis en 1975.
Hey.
Fait que ça fait un bout de temps. Mais on dirait que ça a été construit toujours en lien avec la nature pour sa mise en valeur, pour voir les beaux coins, mais on le sait que c'est quand même elle qui est toujours le patron de notre produit. Donc, ça a été fait dans les règles de l'art, dans le but de la mettre en valeur et non pas la détruire. Je pense que c'est ce qui fait que le site est encore si beau, malgré toutes ces années où on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus le voir, là.
Exact. Alors, et puis maintenant, ben, vous offrez aussi, c'est sûr que vous accueillez quand même pas mal de gens. Alors, vous avez développé aussi au niveau de l'hôtellerie, de l'hébergement, il y a quand même une offre intéressante, là, ben, tout à fait même divertissante.
Vraiment, oui. On a dans le fond, on a 200 sites de camping avec alliant autant du rustique jusqu'aux trois services, donc avec les goûts l'eau et l'électricité. On a également des refuges qui sont ouverts à l'année aussi, que les gens peuvent réserver toute l'année. C'est plus comme des chalets, je dirais. On a aussi des prêts à camper, donc plus des tentes de prospecteurs qui ont été faits par une compagnie québécoise de la Gaspésie, Imago. C'est super. C'est aussi offert à l'année, mais bon, peut-être plus pour les plus téméraires l'hiver quand même. C'est plus frais.
Oui, oui.
Et cette année, on a l'Hôtel Unique. L'Hôtel Unique, c'est une dizaine de tentes qui a été mise dans un lieu inusité où il n'y a pas de camping habituellement. C'est plus du glamping, donc du camping de luxe. On a le confort d'une chambre d'hôtel, mais en pleine nature. Donc, c'est nouveau de cette année et ça fonctionne très bien. Les commentaires sont bons.
Ah, ben ça, c'est formidable. Et puis, effectivement, ben j'imagine que, bon, enfin, il y a plein, comme on disait, de choses à faire, à voir dans le secteur. Il fait bon vivre, en tout cas, dans cette belle région, vivre à Coaticook, vraiment, c'est... ça peut être fort intéressant, en tout cas, pour cette belle nature. Et puis, bon, comme je disais tout à l'heure, ben, il y a plein de gens. C'est vraiment un milieu aussi agricole en même temps.
Vraiment. Et puis, oui, c'est dans le fond, c'est le développement de la région, c'est bâti par l'agriculture et l'agroalimentaire. On a d'excellents produits régionaux. On a qu'à penser à la laiterie de Coaticook.
Mais oui, la crème glacée.
Oui, qui est vraiment exquise et qui est connue à travers le Québec. On a aussi des fromageries excellentes, la fromagerie La Station qui a remporté énormément de prix international pour ses fromages. On a des vergers qui sont bien organisés, qui sont super organisés, qui font les meilleures tartes aux pommes au monde. Le verger Gros-Pierre, vous y goûterez si vous voyez ça. Avec des gros morceaux de pommes, c'est délicieux. On a des vignobles. Donc, c'est une région qui est très, très agricole, qui est partie, la base est là, dans le fond.
Effectivement.
Quand on voit, on a des tours d'observation, puis quand on regarde du haut de la tour, c'est ce qu'on voit autour. On voit que des champs, des clairsemés avec des forêts au travers.
Bon.
Mais comme l'automne, non, on a les champs de blé, les champs de foin. Donc
c'est de toute beauté. Bon.
Oui, des carrés de couleurs.
Exactement. Caroline Sage, on ira faire un tour au parc de la Gorge de Coaticook et on ira voir le Foresta Lumina. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous. Bon été.
Au revoir. Et puis à vous, chers auditeurs, je termine toujours ainsi. Ben, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Au revoir.